Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de l'information économique. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on ne va pas juste lire des colonnes de chiffres arides, je vous rassure, on va vraiment décoder les mutations massives de l'économie mondiale.
Salut Eve. Et oui, des mutations qui ont des impacts ultra concrets, jusqu'à la petite entreprise au coin de la rue.
Exactement. On se base sur la très riche édition d'EcoBusiness du 30 mars 2026. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment le monde a basculé dans une sorte d'économie de guerre financière. On verra aussi comment le Maroc arrive à maintenir un cap hyper solide au milieu de tout ça.
Un cap validé par le FMI pour le coup, c'est pas rien.
C'est clair. Et surtout, on parlera du véritable moteur du pays, ces millions de très petites entreprises, les fameuses TPE, qui demandent une attention vitale aujourd'hui. Alors, décortiquons tout ça. Pendant des années, la recette magique pour faire fructifier son argent, c'était simple. On achetait un fonds indiciel mondial, on fermait les yeux et on encaissait tranquillement ces 15% de rendement annuel, quoi.
Ah bah la belle époque de la mondialisation heureuse, ouais. Le monde était un grand marché ouvert, sans friction.
Sauf qu'aujourd'hui, on ouvre les dossiers et cette mondialisation heureuse, elle est officiellement déclarée morte.
Paix à son âme, ouais. Parce que pour comprendre l'économie locale aujourd'hui, il faut vraiment regarder les plaques tectoniques mondiales qui sont en train de bouger. Les marchés réagissent plus au bilan comptable, en fait. Ils réagissent aux embargos sur les puces, aux blocus sur les métaux rares, aux rivalités entre superpuissances.
Et le moteur de cette rupture, c'est vraiment la volonté des États-Unis de se découpler de la Chine.
Totalement. Sauf que, on débranche pas la première usine du monde d'un simple claquement de doigts, tu vois. La Chine a un levier de rétorsion qui est massif, c'est le contrôle de la transformation des ressources critiques.
Genre les terreurs, hein?
Voilà, prends des métaux comme le néodyme ou le dysprosium, ces trucs-là, c'est le système nerveux de la technologie moderne. Sans ça, t'as pas de moteur pour les véhicules électriques, pas d'éoliennes et, plus critique encore, pas de système de guidage pour les missiles de précision.
Ah oui, on est vraiment sur de la défense là.
C'est ça. Et la Chine, elle n'a pas forcément toutes les mines du monde, mais elle a monopolisé l'étape la plus dure, le raffinage. Elle traite entre 85 et 90% de ses matériaux au niveau mondial.
Donc en gros, même si un pays occidental découvre une mine géante chez lui, il est quand même obligé d'envoyer la roche en Chine pour la transformer.
Exactement, c'est un goulot d'étranglement absolu.
C'est fou! Et on voit la même logique avec l'intelligence artificielle, non?
Ah complètement. Les puces de dernière génération, genre celles de Nvidia, c'est plus de simples composants commerciaux. Les gouvernements les ont reclassifiés, dans les faits, comme des actifs stratégiques de sécurité nationale.
Au même titre que l'uranium enrichi ou...
Ou les plans d'un sous-marin nucléaire, ouais. L'État américain intervient directement pour interdire leur vente à certaines puissances étrangères, c'est pour dire.
Du coup, ça oblige les investisseurs à revoir toute leur stratégie. Si je regarde les recommandations actuelles, pour survivre dans ce chaos, on parle de concentrer 50 à 60% de ses actifs sur le marché américain.
Ouais, parce qu'ils bénéficient de cette prime de sécurité technologique et militaire. Ensuite, on conseille 20 à 30% sur les marchés développés et seulement 10 à 15% sur les émergents. Et encore, faut trier, hein.
Dans les émergents, l'Inde est plafonnée à 5%, c'est ça?
C'est ça. Parce qu'ils sont trop vulnérables structurellement avec leur dépendance aux importations d'énergie. À l'inverse, des pays comme les Émirats arabes unis attirent l'argent parce qu'ils ont réussi à monétiser une posture de neutralité, stricte entre l'axe américain et l'axe sino-russe.
D'accord. Mais alors, dans cette allocation, il y a un truc qui me fait tiquer. Les analystes disent de garder 10 à 20% de cash, de liquidité pure. Attends, avec l'inflation qu'on se prend, garder du cash, c'est la garantie absolue de perdre de l'argent, non?
Alors oui, je comprends la réaction, mais dans ce nouveau monde volatile, le cash change de nature. C'est plus de l'argent qui dort sous le matelas. Les institutionnels appellent ça le coût de l'optionnalité.
Le coût de l'optionnalité.
Ouais. En gros, quand un choc géopolitique imprévu te tombe dessus, genre une invasion, un embargo soudain, les marchés boursiers, ils s'effondrent sans faire de détails. Et à cet instant précis, les bons actifs deviennent soudainement très bon marché.
Ah, donc avoir 20% de cash, c'est avoir des munitions prêtes à tirer.
C'est exactement ça. C'est la capacité vitale de racheter quand tout s'effondre. Le rendement que tu vas générer à ce moment-là compense largement les quelques pourcents grignotés par l'inflation avant. D'ailleurs, c'est la même logique derrière l'or.
L'or qui bat des records, d'ailleurs.
Bah oui, l'once est passé d'environ 800 dollars en 2008 à près de 2700 dollars aujourd'hui. Et on vise les 3000. L'or, ça verse pas de dividendes, ça coûte cher à stocker, mais c'est ton assurance tout risque contre un crash systémique, quoi.
Ok, donc le monde se fragmente, tout le monde cherche des valeurs refuges, on se bat pour des puces. Et au milieu de cette tempête, comment un pays comme le Maroc se protège? Parce que quand on regarde les données du FMI, leur trajectoire détonne complètement par sa stabilité.
C'est clair, on a une croissance prévue à 4,4% en 2026 et 4,5% en 2027. C'est pas juste un rebond, c'est un vrai bouclier macroéconomique.
Un bouclier qui repose sur quoi, concrètement?
Déjà des investissements massifs dans les infrastructures et une dette hyper contrôlée. Ils prévoient de la stabiliser à 60,5% du PIB d'ici 2030. Mais le gros marqueur, c'est le maintien de la ligne de crédit modulable du FMI.
Attends, il faut préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est pas un prêt d'urgence parce que le pays va mal.
Non, pas du tout. C'est une facilité de tirage de plusieurs milliards, mais qui est préapprouvée uniquement pour les pays avec d'excellents fondamentaux. Le Maroc a même pas l'intention d'y toucher.
C'est juste pour envoyer un signal, en fait.
Voilà. C'est un sceau de validation pour les agences de notation. Ça permet au pays d'emprunter beaucoup moins cher sur les marchés internationaux.
Et ce positionnement, on le voit aussi à l'international. Il y a ce partenariat stratégique avec le Royaume-Uni, qui va bien au-delà de la diplomatie, avec de vrais accords dans l'agriculture, les infrastructures. Mais l'exemple roi, ça reste l'OCP, le géant des phosphates, avec ses expansions en France et en Inde.
L'OCP, c'est fascinant. Ils ont compris qu'on peut plus se contenter de creuser et d'exporter de la roche brute au kilo. Face aux normes environnementales, surtout en Europe, ils font de la formulation sur mesure.
Donc ils adaptent l'engrais au sol de l'agriculteur français, par exemple?
C'est ça, avec une R&D très poussée. Et en Inde, où la sécurité alimentaire d'un milliard et demi de personnes est en jeu, l'OCP ne fait pas que livrer des volumes. Il déploie des programmes de formation agronomique pour les fermiers locaux.
Donc, au lieu de vendre un produit chimique, ils vendent de l'ingénierie et de la dépendance stratégique, en fait.
Exactement. L'agriculture étrangère devient dépendante de leurs brevets et de leur expertise, tout en maximisant la marge sur chaque tonne.
Bon, c'est fascinant de voir l'OCP s'étendre en Asie ou les accords avec Londres. Mais ces grands chiffres macroéconomiques, est-ce qu'ils reflètent vraiment la réalité de l'entrepreneur du coin de la rue? Parce que les données des premières assises des très petites entreprises, prévues pour juin 2026, elles montrent une sacrée fracture.
Ah oui, l'arbre des grands groupes cache une forêt immense. Au Maroc, sur environ 4 185 000 entreprises, t'en as 4 60 000 qui sont des TPE.
C'est énorme, 4 millions!
97% du tissu économique. Elles emploient 83% du secteur privé. Et en face de ça, on a quoi? Seulement 580 grandes entreprises.
C'est l'analogie de l'iceberg. Les grandes entreprises, c'est le petit bout qui brille au soleil, mais la base gigantesque sous l'eau qui tient tout le pays, ce sont ces millions de petits artisans, de restaurateurs.
Sauf qu'il y a un chiffre qui fait mal. Sur ces TPE, on en a 1,7 million qui évoluent dans l'informel total, sous les radars.
Mais pourquoi c'est si difficile de les intégrer, ces 1,7 million de boîtes? Elles manquent d'ambition? Ou c'est de la fraude fiscale organisée?
Non, c'est ni l'un ni l'autre. L'énergie entrepreneuriale est là, mais elle est étouffée. Imagine le patron d'un petit atelier de couture de quartier. S'il s'immatricule demain, il se prend de plein fouet un code du travail, des taxes forfaitaires avant même d'avoir fait un dirham de bénéfices et des normes pensées pour des boîtes de 50 salariés.
Ah oui, donc le coût de la légalité détruit sa petite marge.
Voilà. Rester dans l'informel, c'est un pur calcul de survie. Donc l'enjeu des assises de 2026, c'est de passer d'une logique d'assistanat à une vraie doctrine publique. Faut simplifier la fiscalité par le bas et leur ouvrir l'accès au marché public.
Ok, mais même si on simplifiait les papiers, une petite entreprise, elle a besoin d'oxygène. Elle a besoin de crédit pour une machine, un local. Or, les banques peinent à leur en donner. Les guichets sont fermés. Pourquoi la tuyauterie est bouchée à ce point?
Pour comprendre ça, faut regarder dans les bilans des banques. Fin 2025, le taux de créances en souffrance était à 8,2%.
Les fameux crédits qui sont plus remboursés.
C'est ça. Plus de 100 milliards de dirhams immobilisés.
100 milliards, d'accord. J'avais lu une métaphore là-dessus. On peut voir la banque comme une éponge, non?
C'est une très bonne image. L'éponge absorbe l'eau, donc l'argent de la banque centrale et les dépôts, et elle est censée la presser pour distribuer des crédits à l'économie.
Sauf que là, l'éponge est saturée par 100 milliards d'eau sale. C'est mauvaise dette. Et tant qu'elle ne peut pas s'en débarrasser, elle ne peut plus absorber d'argent frais pour le prêter aux jeunes artisans.
T'as tout compris. Et la solution de Banque Al Maghrib, soutenue par la Société Financière Internationale, c'est de créer un marché secondaire. Autoriser enfin les banques à vendre ces créances douteuses à des tiers spécialisés. La banque nettoie son bilan, elle récupère du cash, et hop, l'éponge est de nouveau prête à prêter.
D'accord, mais là, il y a quand même une grosse alerte rouge. Vendre des dettes de petits commerçants à des fonds spécialisés dans le recouvrement, ça ressemble un peu à lâcher des loups dans la bergerie, non ? Comment on s'assure que ces ménages ne soient pas broyés par des méthodes agressives ?
C'est la préoccupation numéro un, oui. C'est pour ça que le projet de loi inclut des garde-fous stricts, un nouveau code déontologique supervisé par la Banque centrale, une forte protection des données personnelles.
Donc on les laisse pas faire n'importe quoi ?
Surtout pas. La priorité, c'est le règlement amiable. Et il y a un gros apport du numérique, avec des ventes aux enchères en ligne pour la transparence. Le but, c'est pas d'accélérer les saisies, c'est de changer la culture bancaire et de ramener ces gens dans l'économie formelle.
C'est un grand nettoyage, en fait. Et on voit que tout le paysage financier se recompose, même au niveau des grands acteurs. Par exemple, le désengagement de BNP Paribas, qui vend 67% du capital de la BMCI au groupe marocain Holmarcom.
Ouais, un capitalisme marocain qui reprend la main sur ses propres fleurons bancaires. Et la mécanique est dingue. Ils ont utilisé la norme IFRS 5 pour isoler des actifs. 7,8 milliards d'euros d'actifs et 6,1 milliards de dettes ont été cantonnés.
Donc Holmarcom achète une coquille propre, sans les vieux squelettes dans le placard.
Exactement. Une lisibilité totale. Et à côté de ces banques traditionnelles, tu as l'essor du capital investissement, le private equity, qui cible directement les boîtes prometteuses.
Comme le fonds Adenia Partners, qui vient de lever 180 millions de dollars pour son fonds ciblant les PME africaines. Avec notamment leur entrée chez Maimana, cette fameuse institution de la gastronomie marocaine.
Voilà. Et ça prouve que l'investissement en Afrique devient beaucoup moins spéculatif et plus axé sur l'impact. À Denia, ils viennent pas juste faire un chèque. Ils installent des directeurs financiers, modernisent l'informatique, imposent des normes pour l'inclusion et la réduction carbone.
C'est un peu de l'artisanat financier. C'est comme mettre un tuteur pour une plante dans un jardin. Au lieu de jeter de l'argent depuis un hélicoptère, ils accompagnent la structure familiale pour qu'elle s'élève sans s'effondrer sous son poids.
C'est une super métaphore. Ils transforment des PME familiales en champions régionaux. C'est ce qui crée ces fameuses entreprises de taille intermédiaire qui manquent tant pour créer des emplois stables.
Donc, si on récapitule notre parcours d'aujourd'hui, c'est fou, on est parti des tensions géopolitiques mondiales avec la domination du dollar et la guerre des puces pour atterrir dans les bilans des banques marocaines qu'on essaie de nettoyer et finalement, on arrive dans le quotidien de ces millions de TPE qui sont le vrai socle du pays.
Ouais, et ça amène une réflexion de fond. On voit le Maroc consolider sa position macroéconomique, récupérer ses fleurons bancaires et essayer de formaliser massivement ses petits entrepreneurs. Et on peut se demander, si les marchés mondiaux deviennent de plus en plus chaotiques, la véritable superpuissance économique de la prochaine décennie, ce sera peut-être pas celui qui a le plus de devises.
Ce serait quoi alors ?
Ce sera la capacité d'un pays à être radicalement autonome, à faire confiance et à structurer ses propres petits acteurs locaux plutôt que de dépendre uniquement des capitaux mondiaux volatiles.
C'est une excellente piste de réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. Regardez nos propres écosystèmes internes avec autant d'attention que la Bourse de New York. Merci pour ces éclairages passionnants et j'invite notre audience à continuer à creuser ces sujets. Gardez toujours cet appétit pour comprendre les rouages du monde qui nous entoure. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.